On va continuer notre étude sur le thème de la crainte de Dieu. C'est un très très grand sujet dans l'Écriture et il y a différents aspects qu'on a vus un peu, mais aujourd'hui on va voir cet aspect du pardon et de la crainte. Comment la crainte est liée au pardon. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 130, on va lire les quatre premiers versets. Là j'ai mis les versets 3 et 4, les versets 3 et 4, mais on peut lire les quatre premiers versets du psaume 130. Donc cantique des degrés, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Ça résonne un peu le micro, non? Non? Ça ne vous gêne pas? J'ai l'impression que ça résonnait un petit peu. Voilà, donc psaume 134, les deux versets que nous allons considérer sont ces versets-là. Si tu gardais le souvenir des iniquités, ô Éternel, qui subsisterait? Donc ces versets, et puis le verset 4 surtout, qui dit « Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne ». Et donc, on voit ici que il y a un lien entre le pardon et la crainte de Dieu. On est en train de regarder le thème de la crainte de Dieu. Le pardon que Dieu accorde et la crainte de Dieu sont liés. Donc la conscience même, on pourrait dire quand on regarde ce texte, que la conscience du pardon, eh bien, conduit vraiment à la crainte de Dieu. La compréhension que j'ai du pardon, qu'on a du pardon, conduit à la crainte de Dieu. Alors, dans les relations que nous entretenons avec les uns avec les autres, en général, l'homme naturel est habitué à ne pas pardonner. On ne pardonne pas. On aime retenir les iniquités des autres. Quand quelqu'un nous a fait quelque chose, non seulement on ne pardonne pas, mais parfois on éprouve un douloureux plaisir, je sais pas si on peut dire ça comme ça, hein, parce que ça fait quand même mal, à ne pas pardonner et à se souvenir des iniquités. Et parfois les gens ressortent des choses qui datent de 15, 20 ans, 30 ans, et ça revient sur le tapis, sur le devant de la scène, parce que on a gardé ça dans le cœur, n'est-ce pas? Et vous entendez, on entend des gens dire parfois, jamais je n'oublierai ce qu'il m'a fait. Jamais je n'oublierai. Hein. Je me souviens d'un ancien sélectionneur de l'équipe de France qui parlait d'un journal sportif qu'il avait beaucoup critiqué. Et comme il a remporté la Coupe du Monde en 1998, il y en a qui sont très au courant, sa dernière phrase, lorsqu'on l'avait interviewé à la fin du match sur le terrain, c'était « Mais est-ce que vous pardonnez ?» Maintenant, il a dit « Jamais je n'oublierai, jamais je ne pardonnerai. » Mais bon, il n'est pas seul à dire des choses comme ça. Nous, ça nous arrive des fois de dire des choses comme ça, de penser des choses comme ça, ou alors de ne pas le dire, mais de ne pas pardonner dans le fond de notre cœur et de toujours nous souvenir des iniquités des autres. Je me souviens qu'il avait fait ça, je me souviens qu'il a dit ça, je me souviens de cette parole, c'était... Et on tient, et on ne voit les gens que par le prisme d'une offense qu'ils ont faite ou d'une faute qu'on leur retient. Mais ici, c'est intéressant de voir que celui qui a une mémoire la plus grande qui soit, qui est tout puissant, la Bible dit ici qu'il ne garde pas le souvenir des iniquités. C'est encourageant. Dieu qui pourrait tout garder et nous reprocher tout, la Bible dit qu'il ne garde pas le souvenir des iniquités. C'est ce que le texte dit en substance. Allez, si tu gardais, qui c'est qui pourrait subsister? La réponse évidente est, bien sûr, personne. Personne. Alors, on veut relever ce que David dit ici parce que la question qu'il pose quand même, ici, c'est pour mieux mettre au verset 3, c'est pour mieux mettre en évidence le verset 4 qui est à partir de « mais le pardon », c'est pour mieux mettre en évidence le pardon de Dieu. Le pardon se trouve auprès de toi. Et puis il ajoute ici une chose, une conséquence, afin qu'on te craigne. Donc Dieu n'oublie pas simplement, enfin, il ne, c'est pas qu'il ne se souvient pas seulement, c'est pas, David ne veut pas simplement dire ça, il veut surtout dire que le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on le craigne. Et c'est ce qu'on veut considérer ensemble ce soir. Alors j'ai des petits papiers pour vous quand même, on va les distribuer. Hein. Alors c'est pas l'imprimante là, je crois que l'encre commence à s'en aller. Donc j'espère que vous allez pouvoir voir un peu quand même. Je vais en garder une. Merci. Merci beaucoup. Alors la première chose qu'on pourrait considérer ici, c'est un peu les différents, enfin une chose qu'on va considérer plutôt, on n'en considérait qu'une, ce sont les différents aspects du pardon de Dieu, les aspects du pardon de Dieu qui sont notés ici. Il dit, premièrement, le pardon se trouve auprès de 3, verset 4, afin qu'on te craigne. Ça va? Tout le monde a un petit bout de papier. Alors, le premier point qu'on souligne ici, hein, c'est... tu peux mettre en bas, voilà, c'est bon. Merci. Le premier point qu'on souligne ici, c'est que, si on regarde ce verset-là, dans ce verset, verset 4, se trouve auprès de 3 pour qu'on te craigne, on peut sortir différents aspects du pardon de Dieu. D'abord, il dit que le pardon se trouve auprès de toi. Le premier point, c'est que il parle de la nature de ce pardon-là. On ne trouve pas le pardon n'importe où, hein. C'est le pardon qui se trouve, dit-il, auprès de Dieu, hein. C'est auprès de Dieu et nulle part ailleurs que se trouve le pardon. Alors, comment est-ce que Dieu se présente? Quand on lit, par exemple, Exode, quelqu'un peut chercher ça, Exode chapitre 34, versets 6 et 7. Vous connaissez ce passage, c'est quand Moïse, quand Dieu parle à Moïse, et puis qu'il avait demandé, fais-moi voir ta gloire, et puis Dieu avait dit, je te ferai voir ma bonté, je passerai, et puis Dieu passe, et puis Dieu dit vraiment qui il est. 34, versets 6 et 7, quelqu'un veut lire ça? Voilà, merci beaucoup. Alors, la question que je vous pose ici, c'est comment Dieu se présente-t-il dans ces versets? Alors, on pense à l'aspect du pardon. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il est le Dieu qui pardonne, et en même temps, il dit autre chose? Et qui punit. D'accord? Donc, on peut souligner ça, hein, ici. Donc, je l'ai mis comme ça. Il est, Dieu est celui qui pardonne et qui punit l'iniquité. D'accord? C'est presque, on a l'impression que c'est presque contradictoire, non? Il pardonne et en même temps il punit. Hein? Alors comment pardonner, j'ai mis une deuxième question, comment pardonner et ne point tenir le coupable pour innocent en même temps? Comment est-ce que cela peut se faire? Si on demandait ça, soit on pourrait dire qu'il punit, l'iniquité, soit il pardonne. On a souvent l'impression que quand on pardonne, on ne punit pas, n'est-ce pas, quelqu'un. On ne lui fait pas porter la peine de sa faute. Alors regardez Romains chapitre, je crois que j'ai mis quelques aspects du verset ici. Romains chapitre 3, versets 23 à 26, mais on peut lire peut-être 25 à 26. Je vais le lire là, vous l'avez sur vos papiers. Pardon pour la qualité, hein, c'est pas très très bien sorti. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Comment est-ce que Dieu pardonne tout en punissant? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les deux, là. Hein? Qu'est-ce que ça dit, le texte? Il a envoyé son fils, il a puni à notre place Jésus-Christ. Dieu a pourvu, le texte dit que Dieu a pourvu sa propre justice, et sa propre justice a consisté en quoi? A consisté en le fait qu'il a pu à la fois demeurer juste, c'est-à-dire il a puni le péché, d'accord? Il a puni, et en même temps, il a justifié le pécheur. D'accord? Il a fait les deux. Alors comment? Il ne pouvait pas juste pardonner et puis faire comme si, voilà, j'oublie, puis comme si il s'est rien passé. Pas du tout. Dieu est juste. Et il ne tient pas le coupable pour innocent. Donc, il faut que quelqu'un paye. Donc, il a produit sa propre justice en frappant son fils. D'accord? Il demeure juste. Et en pardonnant celui qui a la foi en Jésus-Christ, qui s'identifie à Jésus-Christ, en le justifiant, eh bien, la Bible dit qu'il demeure juste tout en, comment il le dit exactement ici, à la fin du verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc voilà comment, quand nous lisons « Auprès de toi se trouve le pardon », c'est pas simplement que Dieu oublie qui subsisterait si tu retenais les iniquités, mais « Auprès de toi se trouve le pardon », c'est pas simplement que Dieu oublie, mais c'est que ce pardon-là dont il est question dans sa nature, eh bien Dieu a pourvu d'une manière bien spécifique, bien particulière. Donc on peut dire que la justice de Dieu en Jésus-Christ lui permet de pardonner tout en ne laissant pas le péché ici impuni. Donc, quand on parle du pardon, il faut se souvenir de ça. C'est pas Dieu me pardonne, peu importe ce que j'ai fait. Non, il a le pardon qu'il offre à un prix, à un grand prix. Alors, par exemple, en Actes chapitre 10, verset 43, lorsque Pierre parle devant toute la famille de Corneille, il dit « Les prophètes rendent de lui, de Jésus-Christ, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. » Donc, quand on parle du pardon de Dieu partout, hein, il n'y a pas de pardon qui ne soit en dehors de Christ. Il faut toujours garder cette, même dans l'Ancien Testament, hein, on parle du pardon, eh bien, le pardon qui est possible, c'est le pardon que l'on a en Jésus-Christ. Et même les prophètes, vous voyez ici, Pierre dit que les prophètes même, c'est de ceux qui parlaient aussi quand ils parlaient du pardon. Quiconque croit en Jésus-Christ, eh bien, reçoit par lui le pardon des péchés. Donc, le pardon se trouve auprès de Dieu, on pourrait dire, dans la personne de Jésus-Christ. Hein. Donc, je pense que je ne l'ai pas mis ici. Le pardon se trouve auprès de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Alors, bien sûr, David ne le dit pas comme ça. David dit « Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Mais nous, maintenant, avec tout ce qu'on a de la révélation de la parole de Dieu, on peut rassembler les choses et comprendre que ce pardon qui est auprès de Dieu, il est accessible par Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Donc ça c'est un petit peu, on pourrait dire, la nature du pardon. Deuxième point ici, c'est son étendue. Hein, l'étendue du pardon. Il dit « Mais le pardon se trouve auprès de toi. » À chaque fois, j'ai souligné à chaque fois un petit peu le mot sur lequel on insiste. Hein. Le premier, c'était « auprès de toi ». Le deuxième, c'est ici le pardon. En évoquant ici le pardon, eh bien, qu'est-ce qu'on peut considérer? C'est que l'auteur, hein, bon, je ne sais pas si c'est David, hein, l'auteur de ce psaume ici, il n'insiste pas sur tellement les iniquités et sur les péchés. Mais il insiste sur le pardon, tout simplement, de Dieu qui est le pardon qui est auprès de Dieu ici. Parfois, les personnes disent, mais j'ai commis tellement de péchés que je ne crois pas que Dieu va me pardonner. Voilà. Je me souviens, on avait fait une classe avec les ados préados. Et puis, il y a un jeune qui dit à un autre, « Mais toi, tu seras pasteur, toi. » Et puis, moi, je lui dis, « Mais toi aussi, tu pourrais l'être. » Il dit, « Ah non, moi, j'ai trop de péchés. » des ados. D'accord? Donc, vous voyez, parfois, on pense qu'on a fait tellement de choses que Dieu ne peut pas nous pardonner. Mais ici, c'est intéressant de voir que David ne parle pas de péché. En fait, ce qu'il veut mettre en évidence le plus, c'est le pardon de Dieu. Et l'étendue, on pourrait dire, du pardon de Dieu, ici. Donc, je le mets comme ça, hein, en évoquant le pardon des péchés. Et le pardon et non les péchés, David met en évidence, on pourrait dire, l'immensité ici, du pardon de Dieu. David met en évidence l'immensité du pardon de Dieu. Alors, si vous lisez en 1 Jean 1, verset 9, nous pouvons lire ici, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes. » Toutes, ça veut dire quoi ? Toutes. Prenez les péchés que vous connaissez tous. D'accord ? Et quand... L'auteur dit le pardon est auprès de Dieu, c'est quelque chose d'immense, c'est le pardon de toute personne et qui vient bien sûr par la foi, qui s'approche par la foi en Christ et de tout type de péché. Dieu pardonne tous les péchés. Quand on lit par exemple 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul parle des Corinthiens en disant voilà comment vous étiez auparavant et il donne une liste de péchés, hein. Et il y a des choses qui sont très, très graves là-dedans. Mais il dit, c'est là ce que vous étiez, mais vous avez été lavé. D'accord? Et donc, Dieu purifie. Ici, le texte qu'on lit ici dit que, eh bien, si on confesse nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et là, c'est une promesse. Ce verset est une promesse que Dieu fait, que le pardon, il le donnera présentement pour les péchés qui sont commis, mais aussi pour les péchés futurs. Parce qu'il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc là, c'est une promesse sur le pardon futur que Dieu va accorder. Et pas simplement sur ce qui est passé. Donc il parle du pardon qui sera dans l'avenir. Ça, c'est le second point ici. Donc le pardon, on pourrait dire ici, de Dieu englobe tous les péchés passés, présents et aussi futurs. Tous les péchés, présents, passés et futurs. Puis, troisième chose que l'on veut souligner ici, c'est dans ce texte, on voit aussi la disponibilité immédiate du pardon de Dieu. Comment on peut voir cela? Donc, si on lit le verset, il dit « Le pardon est auprès de toi ». Pas « Il a été auprès de toi », pas « Il sera auprès de toi », mais « Il est auprès de toi ». Donc, pour tous ceux qui viennent à Christ, quand ils viennent, à n'importe quel moment, le pardon est disponible. Il ne faut pas faire une certaine classe, avoir fait certaines études pour être pardonné, pas du tout. Le pardon est auprès de Dieu. Et c'est là seulement qu'on le trouve et il est disponible. Comme le disait l'Ancien Testament, qui est repris dans 2 Corinthiens 6, où il dit « Car au temps favorable, je t'ai exaucé, 2 Corinthiens 6, 2, au temps au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Donc j'ai mis ce verset-là ici. C'est maintenant, ici, que le jour du salut. Donc le salut, le pardon est disponible. Et puis le troisième point, c'est celui sur lequel je voudrais insister. Quatrième, pardon. C'est le but ici de ce pardon. Alors que dit l'auteur de l'épître l'auteur du psaume ici, il dit « Le pardon est auprès de toi afin qu'on te craigne. » Alors, on aurait pu penser « Le pardon est auprès de toi afin qu'on t'aime, hein, qu'on soit dans la joie. » Ici, on avait dit ça la dernière fois, mais il dit « Le pardon est auprès de toi afin qu'on te craigne. » Alors, quel est le lien avec le pardon et la crainte ici? Comment on peut comprendre ces choses-là. Ce qu'on va faire, on pourrait se poser la question, comment est-ce que l'expérience ou la méditation du pardon de Dieu nous conduit à la crainte de Dieu? On pourrait dire la puissance de Dieu, son jugement, ça peut pousser à craindre Dieu. Mais comment est-ce que le fait que j'ai été pardonné, que Dieu est celui qui pardonne, le fait que le pardon se trouve auprès de lui, conduise à la crainte. Alors moi, ce que je vous propose de faire, j'ai mis ici des versets. On va essayer de regarder, puisque il dit que le pardon entraîne la crainte quelque part. On va regarder quelques versets qui parlent du pardon de Dieu, et puis ce que ça dit à côté du pardon. Et ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le mot crainte ici, pour pouvoir comprendre le lien qu'il y a entre le pardon et la crainte. Alors Luc chapitre 7, verset 47. Est-ce que quelqu'un veut lire ça? Luc chapitre 7, verset 47. Un peu. Alors, j'avais oublié de mettre ça, mais j'ai eu ici que le pardon n'a pas pour objectif de laisser le pardonné faire ce qu'il veut, mais de le conduire à la crainte. Alors, pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais Dieu me pardonne, et puis Dieu, il aime pardonner. C'est un Dieu d'amour, donc si je pêche, il pardonnera. Un peu comme ce que l'apôtre Paul dit dans Romains, il dit, il y a des gens qui disent, mais puisque la grâce abonde, eh bien, péchons afin que la grâce abonde. Eh bien, non. Il dit, loin de là. D'accord. Donc ici c'est la même chose, puisque Dieu pardonne, eh bien on peut, voilà, on est sous un parapluie, sous couvert, on peut plus. Mais il y a des gens qui disent cela, plus ou moins faire ce que l'on veut. Absolument pas. Ici on voit que le pardon conduit à la crainte de Dieu. Le pardon conduit à la crainte. Alors le verset qu'a lu Vijaya ici, à quoi nous pousse le pardon ici? J'ai mis les pointillés. À l'amour pour Dieu. Donc je le mets ici. Luc, c'est évident, il dit, celui à qui on a pardonné, alors comment c'est dit encore le verset, on peut le relire là? Celui à qui on pardonne, peu aime peu. Et puis avant ça, il a dit, et la femme, donc vous vous rappelez de cet épisode, c'était Simon qui reçoit chez lui Jésus, et puis il y a une femme qui rentre, qui pleure, qui mouille ses pieds avec ses larmes, qui les suit, et puis il dit, si Jésus était un prophète, il saurait que cette femme est une femme de mauvaise vie. Et puis Jésus dit, mais elle aime parce qu'on lui a beaucoup pardonné. Donc je paraphrase un peu. Et donc il dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Ça veut dire que celui qui sait qu'il est l'objet du pardon de Dieu, cela se manifeste dans sa vie par de l'amour. D'accord. Pour Dieu. Et aussi pour les autres, bien entendu. Éphésiens 4, 32. On peut lire ça, Éphésiens 4, 32. Quelqu'un? Et quelqu'un d'autre peut chercher déjà, Jean 8, 11, en attendant. Éphésiens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Soyez bons les uns envers les autres et compatissants. Et comment est-ce qu'on est bon et compatissant dans ce verset? En vous pardonnant réciproquement et comme Christ vous a pardonné. Donc on voit encore là le lien. Il y a le pardon de Christ, le pardon qu'on reçoit de Dieu, et puis ce à quoi cela conduit. Ça pousse à quoi ici? Ça pousse à? J'ai pas entendu. À être bon, d'accord, mais plus précisément, il dit comme Christ vous a pardonné, on doit faire quoi? On doit pardonner les autres. Si on regarde dans Colossiens, on a la même chose. Colossiens 3, verset 13, il dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, j'aime bien comment l'Écriture écrit, parce que c'est écrit « Supportez-vous », et puis ça n'arrête pas là. Mais il dit « Mais si l'un a sujet de se plaindre de l'autre », est-ce que ça arrive qu'on ait des sujets de se plaindre l'un de l'autre? Oui, beaucoup, beaucoup trop. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Il dit, mais si c'est le cas, qu'est-ce que vous devez faire? Il dit, pardonnez-vous réciproquement. Il ajoute, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On pourrait dire, le pardon est auprès de toi pour qu'on te craigne, ça veut dire pour qu'on se pardonne les uns les autres. Donc, dans la crainte de Dieu, il y a l'idée de, il y a le devoir de se pardonner mutuellement. Donc, on peut le mettre ici, Le pardon de Dieu pousse à pardonner, je ne sais pas que c'est pas dit aux autres ou les autres, je ne sais pas comment il fallait le mettre, pousse à se pardonner les uns les autres. Et puis, Jean 8, 11, quelqu'un là? Voilà. Donc là, il s'agit de la femme adultère. Vous vous rappelez de cette histoire, cette femme qui vient, et puis les responsables et les plusieurs personnes l'amènent pour être lapidées. Et puis, ils repartent parce que Jésus leur a demandé, celui qui n'a pas de péché, jette le premier la pierre. Ils sont tous partis. Jésus se retrouve seul avec la femme et il lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Autrement dit, il dit, je te pardonne. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Va et ne pêche plus. On pourrait dire, il pardonne pourquoi? Pour qu'elle ne fasse pas quoi après? Elle ne va pas recommencer. Donc, le pardon est auprès de toi afin qu'on te craigne. Eh bien, le pardon est auprès de toi afin qu'on se pardonne, on l'a dit. Le pardon est auprès de toi afin qu'on ait de l'amour pour Dieu et pour les autres. Mais le pardon est auprès de toi aussi afin qu'on ne pêche plus. On est pardonné de notre péché afin qu'on ne pêche plus. C'est ce que ça veut dire ici. Donc, la crainte que l'on a dans ce psaume 130, c'est aussi se traduit par le fait de ne plus pécher. Va et ne pêche plus, dit Jésus ici. Alors, je vais vous lire, lisons ensemble 1 Jean chapitre 1. Prenez votre Bible dans 1 Jean chapitre 1. Oui, j'ai mis chapitre 2 ici, mais on va lire d'abord le chapitre 1, verset 9, jusqu'au chapitre 2, verset 1. Je n'ai mis que le chapitre 2, verset 1 ici. Je vais le lire. 1 Jean chapitre 9. 1 Jean chapitre 1, ça n'existe pas, Jean chapitre 9. Hein. 1 Jean chapitre 1, verset 9 à 2. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Voilà tout le texte un peu. La question que je pose, c'est qu'au verset 2, chapitre 2, verset 1, l'apôtre Jean dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses. » De quelles choses il parle ici? De quoi est-ce qu'il s'agit? De Jésus, oui, peut-être. Mais si on reste dans le contexte immédiat, qu'est-ce qu'il vient de dire? On a lu au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il parle d'une promesse de pardon de Dieu. Promesse, on a dit tout à l'heure, future de pardon. Si vous péchez, il va vous pardonner. Ce qu'il est en train de dire ici. Et il dit, je vous ai écrit ces choses pour quelle raison? Pourquoi je vous ai écrit qu'il y a une promesse pour vous si vous péchez? Pour ne pas? C'est ce qu'il dit, non? Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. D'accord? Donc, il écrit ces choses que Dieu va vous pardonner si vous péchez et si vous confessez vos péchés. Il est fidèle et juste pour vous pardonner. Il est fidèle, il va le faire fidèlement et il est juste pour le faire. Il peut le faire, c'est lui qui a payé. Mais je vous écris ces choses, dit-il, afin que vous ne péchiez point. Donc, le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on ne pêche pas, qu'on ne pêche plus ici. C'est quelque chose qui est quand même assez étrange. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal, assez étrange. Hein. Mais on aurait pu penser naturellement, puisque j'ai la certitude d'être pardonné, si je pêche à l'avenir, alors je peux être moins vigilant. Si je sais que Dieu va me pardonner, voilà, j'ai peut-être un petit peu plus de latitude pour faire les choses plus légèrement. On pourrait penser comme ça, mais le texte dit exactement le contraire. Il dit, Dieu va vous pardonner, mais parce qu'il va le faire, si je vous le dis, pour que vous ne puissiez pas ici pécher. Et je trouve ça extraordinaire et très très encourageant. Donc Jean, ici, on pourrait dire qu'il parle de cette promesse du pardon et de comment Dieu va pardonner à l'avenir. Mais il le fait pour que ses lecteurs puissent être conscients que cela doit les entraîner à ne point pécher. Alors, je vous dis ici, il y a un auteur qui a écrit ça comme ceci, il s'appelle, il est déjà auprès du Seigneur, James Montgomery Boyce, c'est un presbytérien, mais il écrit ceci, il dit, Dieu dit que la vérité, c'est comme si, hein, dans le texte qu'il a, Dieu dit que la vérité qui nous empêchera le plus de pécher, ici, eh bien, est la promesse que nous serons pardonnés, même si nous le faisons. Vous voyez, il dit que Dieu dit que la vérité qui va nous aider à ne pas pécher, c'est la promesse qu'il fait qu'il va nous pardonner si nous péchons. Enfin, si vous voyez bien ça, hein, il dit, je te promets de te pardonner si tu pèches. Et cette promesse-là, il dit, ça c'est la vérité qui va nous aider le plus à ne pas pécher. Alors, il illustre ça par une histoire, et je vais terminer avec cette histoire-là, qu'il raconte. Il raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait le docteur Barnous, hein, Barnars, c'est pas comment il faut dire, hein, qui un jour, il donnait des conférences, et puis beaucoup de conférences, et souvent sur les campus, et un jour, il y a un jeune professeur d'université qui vient le voir à la fin d'une intervention, et puis qui raconte son histoire, une triste histoire. C'est un professeur d'université qui a vécu la guerre. Et il dit, pendant la guerre, avant qu'il ne devienne chrétien, il s'était lié avec de mauvais compagnons et à Paris, il avait mené une vie de grand péché. Il était rentré chez lui, bien sûr après la guerre, il était devenu un chrétien, il était tombé amoureux d'une belle jeune fille chrétienne qu'il aimait aussi. Toutes les filles du Seigneur sont belles, hein. Mais il hésitait à lui avouer son amour car il craignait que son penchant pour le péché ne le pousse à pécher de nouveau et ne blesse ainsi le cœur de la fille qu'il aimait maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il partage ça à ce docteur, qui est aussi chrétien. Et donc, ce docteur prie pour lui, et puis après, ils discutent, et après, il s'assure que ce jeune homme est bien un enfant de Dieu, qu'il est bien chrétien. Et il lui conseille de partager l'histoire de sa vie passée avec la jeune fille. Il dit, s'ils devaient vivre ensemble, eh bien, il ne devrait y avoir aucune barrière entre eux. De plus, il dit, il a affirmé que la connaissance qu'elle avait de sa faiblesse, qu'elle aurait eu de sa faiblesse, l'aiderait à chaque tournant de la route. Et puis, il lui raconte une autre histoire. Il dit, il a rencontré aussi une fois une histoire, quelqu'un qui avait une histoire similaire. Quelqu'un qui avait une histoire similaire. Ici. Et il dit, l'homme, c'est un homme qui avait vécu une vie de grand péché, mais il s'était converti et avait fini par épouser aussi une belle femme chrétienne. Et il lui avait confié à sa femme la nature de sa vie passée en quelques mots. Il dit, alors qu'il lui avait raconté ces choses, sa femme a pris sa tête, l'a mise sur son épaule, l'a tenue dans ses bras, et puis elle lui a dit ceci, « John, je veux que tu comprennes quelque chose de très clair. Je connais bien ma Bible et par conséquent, je connais la subtilité du péché et les dispositifs du péché qui agissent dans le cœur humain. Je sais que tu es un homme profondément converti, chrétien, John, mais je sais que tu as encore une vieille nature et que tu n'es pas encore aussi complètement instruit dans la voie de Dieu que tu le seras bientôt. Le diable fera tout ce qu'il peut pour nous anéantir dans la vie chrétienne, et il veillera à ce que des tentations de toutes sortes se mettent sur ton chemin. Le jour peut venir, plaise à Dieu qu'il ne vienne jamais, où tu succomberas à la tentation et tomberas dans le péché. Aussitôt, le diable te dira qu'il ne sert à rien d'essayer, il vaut mieux continuer dans la voie du péché. Il te dira surtout, ne le dis pas à ta femme, car cela lui ferait du mal. Mais John, je veux que tu saches qu'ici, ici dans mes bras, se trouve ta maison. Quand je t'ai épousé, j'ai épousé ta vieille nature et aussi bien que ta nouvelle nature. Et je veux que tu saches qu'il y a un pardon complet et une rémission par avance pour tous mal qui pourrait entrer dans ta vie. Alors, alors que le docteur maintenant racontait cette histoire à ce professeur d'université, il dit que ce professeur d'université a dit, il a levé les yeux avec révérence et il a dit, mon Dieu, si quelque chose pouvait garder un homme droit, ce serait cela. Et ce qu'il a voulu dire ici, c'est que le fait de savoir qu'on sera pardonné à l'avance, c'est quelque chose qui a une puissance qui nous détourne de péché. Et c'est ce que Jean dit. Il dit, Dieu vous a pardonné et il est fidèle pour le faire quand vous confesserez vos péchés. Et sachant qu'il fera ça, il dit ça à le véritable enfant de Dieu. Quand il comprend cette promesse-là, eh bien, c'est quelque chose qui l'aide à se détourner du péché. Et c'est ce que le psalmiste dit aussi quand il dit « Le pardon est auprès de toi ». Il est disponible tout le temps, il sera toujours disponible, mais afin qu'on te craigne, afin qu'on ne pêche plus. Et c'est pour ça que quand Jésus guérissait, il disait, ou même quand il pardonnait, il disait « Tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus ». Tu es pardonné pour ne plus pécher. Et le fait de savoir que même si on pêche, on sera pardonné, si ça nous pousse à pécher, c'est qu'il y a un problème. On n'a pas encore compris ce que c'est que le pardon, ou alors on n'est peut-être pas venu vraiment au pied de la croix de Christ. Mais celui qui est véritablement Seigneur, quand il saisit l'ampleur du pardon, la grandeur du péché, ce que Dieu a fait, le pardon qu'il a accordé, cette disposition de Dieu à vouloir pardonner, à promettre que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, c'est une promesse qui a pour but, de ce que j'en dis, de nous détourner du péché et pas de nous pousser à pécher, bien au contraire. Voilà, donc on pourrait conclure ici je sais pas ce que j'ai fait, je suis retourné en arrière là, un peu. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ? Personne. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Alors j'avais mis juste une petite question dernière, je crois, ici, d'essayer de résumer, mais vous pouvez le faire, on va s'arrêter là, vous pouvez le faire à la maison. Comment devrait se traduire la crainte de Dieu chez celui qui reçoit le pardon ? Avec tout ce qu'on vient de dire, l'amour, la bonté, la compassion, etc., mais peut-être plein d'autres choses. Qu'est-ce qui devrait se manifester dans notre vie quand on considère le pardon que Dieu nous a accordé? Et tout cela constitue la crainte aussi de Dieu. Si on reste sur le format du verset 4 du psaume 130, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, qu'on ne pêche plus, qu'on se pardonne les uns aux autres, qu'on se parle avec douceur, afin que l'on s'éloigne du péché. Tout cela fait partie de la crainte de Dieu. Donc nous pouvons prier ceci. Enseigne-moi tes voies, c'est le psaume que nous avons lu tout à l'heure. Ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ce pardon que tu nous as gratuitement offert. Il a été gratuit pour nous, mais tu as payé un grand prix. Et nous avons voulu considérer ta parole ce soir qui nous montre ce que doit être la crainte de celui qui est conscient du pardon qui se trouve auprès de toi. Donne-nous de considérer encore ces choses afin que nous ne nous croyons pas simplement en sécurité parce que nous prétendons être pardonnés, mais que, Seigneur, cette sécurité, nous la trouvions aussi dans l'obéissance que nous voyons chaque jour dans notre vie, qui serait la conséquence de ce pardon. Que nous puissions le voir dans les efforts que nous faisons pour nous détourner du péché. Que ce pardon puisse se manifester dans notre vie par le pardon que nous
accordons aussi aux autres qui sont autour de nous. Seigneur, nous te prions ces choses. Agis par ton esprit au-dedans de nous pour les accomplir, pour la gloire de ton nom. Amen.